Est-ce que ça marche? Parce que c'est très important aussi que le son soit le mieux enregistré possible aujourd'hui. Donc bienvenue, j'allais dire, les courageux du samedi après-midi, tant de Lyon que de l'extérieur, ou de l'extérieur plutôt que de Lyon, puisque dans les deux cas, il faut franchir certaines difficultés, y compris la fête des Lumières, etc. etc. Cela dit, c'est un moment aussi important pour la cité, et si tant que vous puissiez rester parmi nous ce soir, nous allons aussi nous retrouver en centre-ville. Donc, je digresse, tout ça pour vous, au-delà de cette bienvenue, vous dire aussi que nous serons rejoints par d'autres personnes, bien entendu, au cours de cet après-midi, qui vont venir, j'allais dire, au-delà de participer, mais plutôt d'écouter et voir comment on peut soulever un certain nombre de questions d'ordre plutôt théorique, à propos, au prétexte de, mais dans le bon sens, de cette exposition Fabricateur d'espace. Et c'est en ce sens que je me permets de prendre cette parole, tant pour introduire ce qu'on a appelé volontairement un séminaire, parce qu'en tant que commissaire de cette exposition, pour moi, c'est un ensemble de questions posées, plus que des réponses, par définition. Ce sont des œuvres qui m'ont donné. Qui nous ont donné plus que l'idée, les intuitions, des pistes de travail et pas des préalables thématiques. Ça, on peut l'imaginer, mais néanmoins, faut-il le rappeler. Et aujourd'hui, nous apprêtons à concevoir la publication qui, d'une certaine manière, si tant est qu'on puisse clôturer quelque chose, clôturera l'opération Fabricateur d'espace pour une parution donc, au cours du printemps prochain. Et cette séance que nous menons aujourd'hui et qui va contribuer en partie à l'élaboration de cette publication. Donc dans ce cadre, j'ai souhaité autour des artistes présents aujourd'hui parmi nous, je dirais pas français mais francophones, donc Vincent Lamour et Ivaris Richer qui nous rejoindront tout à l'heure, que nous puissions avec Arnaud Pierre, qui va donc prendre le relais pour présenter l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui à sa demande, pour que justement avec Arnaud Pierre, nous puissions élaborer de façon plus affinée cette réflexion au cours de ce séminaire et éventuellement au cours de cette publication. Donc je vous passe la parole à Arnaud Pierre en tant que titre, alors dites-moi.
Modérateur.
Oui, alors cela dit, historien de l'art, critique, comment
vous... Historien de l'art avant tout, intéressé à divers titres par la création contemporaine, donc critique d'art d'occasion finalement. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis intéressé effectivement par un certain nombre des artistes présentés dans cette exposition, pour avoir même d'ailleurs un petit peu écrit sur certains d'entre eux.
Désolée de ne pas l'avoir rappelé, d'autant que parmi les textes les plus récents, vous nous avions évoqué le texte que vous aviez écrit sur Vincent Lamoureux dans 2027.
Dans le numéro 2 de la revue 2027 qui est paru début de cette année.
Je vous laisse la parole.
Merci. Je merci d'abord de cette invitation qu'à modérer cet après-midi d'études et cette préfiguration de ce que pourrait être un catalogue revenant sur cette exposition, les enjeux qu'elle pose, et qui me semble en fait déjà très bien posé en fait par les quelques lignes qui précèdent le livret de l'exposition, qui la situe donc dans un retour actuel dont témoignent certaines démarches contemporaines, d'un intérêt pour les questions d'espace tout simplement, après que l'intérêt pour l'objet, à travers toutes sortes de régions de l'urgence du Rémi-Med, est occupé en fait une énorme partie de la production récente. Donc on voit effectivement revenir une génération d'artistes entraînés par exemple donc par Rita McBride, qui tout en étant encore relativement jeune artiste, et peut-être la moyenne en fait de ce groupe d'artistes, qui puisent leur source, en grande partie peut-être, dans l'art des années 1960, non seulement dans une certaine esthétique de cette période, dans un intérêt aussi des artistes effectivement pour l'espace, mais qui qui prennent en même temps que cette occupation d'espace celle qui est avec, c'est-à-dire la question du spectateur, qui est remise tout à fait au centre de tout cela, la question d'un rapport en fait à l'espace, d'un rapport sensoriel, perceptif à l'espace, donc en fait une phénoménologie de l'espace qui était déjà tellement importante dans l'art des années 60 et qui revient en même temps que cette occupation-là dans les démarches que nous avons aujourd'hui à considérer. Retour à l'espace, retrouver l'espace, à plus d'un titre, en effet, dans cette exposition. Je l'ai découverte donc, tout à l'heure, il y a quelques heures à peine. Donc, l'espace, finalement, est tout de suite, posé en tant que tel par Rita McBride dans la pièce centrale, qui est cette espèce de noyau presque inaccessible en fait, à la fois du bâtiment et de l'exposition, qui pose dans le cœur de cet espace la grille du minimalisme, dans son sens peut-être le plus autoritaire, hein, dans le sens le plus normatif qu'elle a peut-être tenu, cette grille, et qui en l'occurrence empêche finalement une réelle expérience de l'espace. On peut voir d'ailleurs aussi une version presque vernaculaire de cette grille autoritaire dans les ailes du moulin de Guillaume Leblond, qui joue finalement contre l'espace et contre le site architectural. Ce n'est même plus donc de l'in-situ finalement, mais plutôt du versus situ, aller contre le site, en défonçant donc éventuellement les murs du lieu occupé, lorsque celui-ci n'offre pas suffisamment de place à l'œuvre. L'espace aussi, d'une certaine manière, est bloqué, on l'a bien vu, par Hans Schabus, dès l'entrée, même pas de l'exposition, mais du lieu, de l'Institut d'art contemporain. La palissade de Hans Schabus, en effet, efface totalement cette façade, et éventuellement, ça ne bloque pas totalement l'aspect, l'IAC peut éventuellement en occulter l'accès, et faire qu'on peut passer devant sans le voir, comme c'est arrivé, comme une mésaventure est arrivée à l'une d'entre nous. Retrouver l'espace, c'est donc aussi retrouver aussi un sens de l'échelle, je trouve, assez fort à travers certains artistes, et notamment chez Vincent Lamouroux, dans la version surdimensionnée qu'il donne de ses cubes gravitaires, qui génère un fort sentiment d'instabilité, et sentiment donc à la mesure effectivement de l'accroissement de l'échelle que connaissent ces pièces dont on a déjà expérimenté de certaines versions plus réduites. L'instabilité de sujet également, me semble-t-il, au moins en partie de certaines des pièces d'Évariste Richer, en particulier donc de l'installation qui figure dans cette exposition, où les effets de l'agression rétinienne donnée par un écran, papier peint blanc piqué de points noirs et cet intervalle régulier. Ces effets d'instabilité optique se lisent presque sur l'instrument qui est logé en fait, dans cet espace, qui est un gyroscope totalement affolé, où la ligne d'horizon n'est plus stabilisée. Donc mise en abyme finalement de l'instabilité vécue par le spectateur. Il me semble aussi que la colonne sans fin de Selstorfer, qui fait lever la tête au risque aussi d'une forme de vertige vers l'espèce de point fini qu'elle désigne dans le cosmos, engage certains de ces rapports limites finalement du spectateur avec l'espace activé par ce type d'œuvre. C'est effectivement le spectateur au bout du compte, en ultime analyse, qui me semble différemment sollicité chez les uns les autres, chez ces artistes, par Deperan, qui met à contribution le visiteur avec son smoking bench, que vous avez sans doute déjà expérimenté, qui altère le reflet du visiteur dans le miroir où celui-ci se regardait. Opération qui tire aussi le vocabulaire autoritaire du minimalisme tel que le présente encore peut-être Rita McBride, vers l'esthétique finalement de la foi et d'une certaine forme de farce. Alors voilà peut-être déjà un certain nombre, un tout petit peu, enfin, des enjeux, certaines des questions posées, me semble-t-il, par cette exposition, par les artistes qui l'occupent. Nous avons certainement abordé d'autres questions à travers les interventions de nos deux autres invités, qui sont donc d'une part Michel Gauthier, ensuite Mathieu Poirier, qui seront rejoints donc, dans quelques temps à cette table par deux artistes, deux des artistes de l'exposition, Vincent Lamoureux et Évariste Richer. Je vous propose donc que l'après-midi se déroule de la façon suivante. Je passerai dans quelques minutes la parole à Michel Gauthier, qui est critique d'art et qui enseigne à Paris 4, pas seulement, mais entre autres dans le master pro de cette université. Il est co-rédacteur de la revue 2027, également inspecteur de la création artistique à la délégation aux arts plastiques. Et il annonce apparaître aux éditions du MAPCO, du Musée d'art moderne et contemporain de Genève, un ouvrage intitulé Les promesses du zéro, qui rassemble des essais consacrés à Robert Smithson, à Ed Rocher, à Kerstin Oehler, à Martin Krieg, à John Armleder et à Tino Segal. Son intervention s'intitule « D'un espace l'autre ». Nous allons bientôt l'écouter. Celle-ci suscitera peut-être, je l'espère, un certain nombre de questions. Donc, je propose que nous entamions déjà la discussion pendant quelques minutes à la suite de cette intervention. Et que donc éventuellement vous participiez bien sûr à cette ébauche de discussion. Je passerai donc ensuite la parole à Mathieu Poirier que je vous présenterai un petit peu plus longuement à ce moment-là. Même chose, je pense que son intervention suscitera des questions et que nous tenterons d'y répondre tout de suite ou de les développer à ce moment-là. Et enfin, nous commencerons la table ronde qui est annoncée, qui donc, nous réunira avec Vincent Lamoureux et Évariste Richer. Bien, donc si Michel est prêt, je passe la parole sans plus tarder.
Ok, merci Arnaud. À l'avance, peut-être au cas où il y aura des problèmes, vous demande votre indulgence, c'est vraiment un Mac du tout dernier cri et déjà qu'avec les Mac de l'avant-dernier cri j'ai parfois quelques problèmes, alors là j'espère que Mathieu viendra me secourir. Si tout ça, les images se mettent à défiler à 100 à l'heure, à la vitesse à laquelle défile le gyroscope d'Évariste Richer. Une exposition comme fabricateur d'espace qui a pour ambition de montrer diverses œuvres d'aujourd'hui qui jouent avec l'espace et plus que l'espace avec le lieu d'exposition, a l'intérêt, principal intérêt, outre la découverte d'un certain nombre de travaux, de nous permettre d'éclairer l'état présent d'une question qui a été, vous le savez, au fond, l'une des grandes affaires du siècle passé, je veux dire la question du rapport de l'œuvre d'art à son contexte spatial, mais aussi architectural, institutionnel. Si cette question a pour nous aujourd'hui l'allure d'une évidence, hein, telle en fait n'a pas toujours été le cas, et l'un des grands courants de la pensée esthétique du XXe siècle, c'est même fondé à refuser de l'avoir posée. Hein, l'œuvre moderniste, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, voulait avoir lieu, mais n'entendait pas avoir de lieu. En effet, l'œuvre d'art dont rêvait le modernisme finissant avait pour ambition d'advenir, mais sans compromission aucune, avec le lieu de cette manifestation, tout se passant comme si la présence pleine et entière de l'œuvre exigeait en contrepartie l'absence du lieu autour d'elle. vous le savez, c'est ce désir d'autonomie de l'œuvre moderniste, seul garant en quelque sorte de sa force oratique, qui a déterminé l'élaboration d'une doctrine muséologique permettant d'accréditer cet isolement statutaire, la fameuse doctrine du White Cube, dont vous savez que les textes qui la critiquent, ceux de Brian Hodgerty, viennent de faire l'objet d'une traduction en français et viennent d'être publiés par la Maison Rouge et JRP. Donc, théorie du White Cube qui préconisait une manière de neutralisation du contexte spatial de l'œuvre pour que celle-ci puisse en quelque mesure être toute seule avec elle-même. Pour que le lieu disparaisse, ou plus exactement puisse donner l'illusion de sa disparition, il devait donc devenir blanc. À la fin des années 60, et on arrive là au cours des années 60 et au début des années 70, cette fiction, vous le savez, a perdu toute crédibilité. Même blanc, même cubique, le lieu ne put préserver plus longtemps son invisibilité de convention. En d'autres termes, l'œuvre devait se résoudre à nouveau à avoir un lieu qu'elle avait en quelque sorte perdu pendant ce qui apparaît aujourd'hui comme une parenthèse, je veux dire le modernisme. Il aura fallu attendre la très fameuse exposition Spaces qui s'ouvre à la fin de 69 et dure les premiers mois de 70 au MoMA, à laquelle fait écho d'une certaine façon, volontairement ou involontairement, par son titre « Fabricateur d'espace », une exposition pour laquelle Jennifer Licht, sa commissaire britannique d'ailleurs et non pas américaine, avait invité Michael Asher, Larry Bell, Dan Flavin, Robert Morris, le groupe Pulse, aujourd'hui un peu oublié mais dont on gagnerait d'ailleurs à se repencher sur les travaux, et Franz Erhard Walter. Donc c'est cette exposition qui consacra, qui vit la consécration par l'institution muséale de cet art qui n'entendait plus se retrancher de l'espace où il était montré. Alors l'histoire de la relocalisation au sens fort du terme de l'œuvre d'art est bien sûr complexe, et ce n'est pas mon propos ici aujourd'hui que d'essayer de la narrer par le menu. Je voudrais simplement, avant que d'en venir à cette magnifique exposition Fabricateur d'espace, je voudrais simplement rappeler quelques œuvres et quelques expositions pour nous aider à comprendre dans quels termes cette relocalisation de l'œuvre s'est pensée. Alors il y a toujours des choses qui se sont faites, bien évidemment, avant les expositions dont on parle. Là, ça n'est qu'à grands traits que je vais brosser cette histoire, et je voudrais la commencer, cette histoire de la relocalisation de l'œuvre d'art, à la Judson Gallery de New York en 1960, avec Alan Kaprow, qui présente une pièce, une installation qui s'appelle An Apple Shrine, donc l'hôtel de la pomme, un environnement conçu comme une manière de labyrinthe fait de ficelles, carton, papier goudronné, paille et autres journaux allant du sol au plafond. Et labyrinthe, parcours labyrinthique qui avait la particularité de se terminer par un espace comme une espèce de sanctuaire avec, vous le voyez ou vous le devinez, avec un autel en bois suspendu sur lequel se trouvait un assortiment de pommes en plastique, d'où le titre de l'œuvre. Rappelons-nous ces quelques expositions extrêmement marquantes. L'année d'après, en 61, le même Capo remplit une cour, il a changé de galerie entre-temps, de la Martha Jackson Gallery, toujours à New York, le remplit d'un amas de vieux pneus sur lequel il proposa au public de marché. L'environnement, l'un des très célèbres de Capro, s'appelle Yard. Enfin, l'année suivante, dans une autre galerie, la Smalling Gallery, toujours à New York, Capro réalisa sans doute le plus célèbre de ces environnements. Le mot naît d'ailleurs à l'époque, environnement qui s'intitule Words, deux salles dont les murs étaient recouverts de rouleaux de tissu sur lesquels avaient été écrits des mots et auxquels les visiteurs pouvaient ajouter, grâce à des crayons et autres stylos mis à leur disposition, des inscriptions de leur cru. Alors, pour revenir sur son activité artistique de la fin des années 50 et du début des années 60, Capro publiera en 66 un ouvrage important, Assemblage, Environments and Happenings, dans lequel il place significativement une photographie de lui-même dans l'environnement dont je viens de parler, que vous voyez en ce moment à l'écran, en regard d'une image montrant Jackson Pollock au travail dans son atelier. Une façon d'indiquer ce que nous savons désormais parfaitement grâce à un certain nombre de travaux, et notamment les analyses de Paul Schimmel. L'action painting est le parent direct du happening. 2, l'environnement est l'expansion spatiale de l'arène picturale de l'action painter. Une expansion, on parcourt l'histoire de l'art en accéléré, là, une expansion que les combined paintings de Rauschenberg avaient commencé d'entreprendre dès le milieu des années 50 et que j'en choisis une, j'aurais pu en choisir d'autres, mais elle me paraît tellement dans la descendance des combined paintings que son nom s'imposait après avoir montré cette image. Expansion spatiale de la peinture que les grandes installations de Jessica Stockholder, ici c'est au K20 à Düsseldorf, dans les années 90, sont portées à une échelle encore plus grande. À travers ces quelques précisions, il ne s'agit pas pour moi de faire œuvre d'historien, ça serait un peu juste, mais simplement de vous, juste, non pas au sens d'exact, mais un peu limité, mais de vous permettre de mesurer à quel point ce que l'on appelle dans ce début des années 60 environnement, et qui quelques années plus tard se nommera jusqu'à aujourd'hui installation, me semble procéder dès son origine d'une logique foncièrement ambivalente. D'un côté, il y a clairement une volonté de désautonomisation de l'œuvre, de sécularisation en quelque sorte de l'art, qui s'affirme notamment à travers la participation du spectateur. Le spectateur, il marche, il évolue dans l'œuvre et dans certains environnements, comme par exemple dans Words, dont je vous parlais tout à l'heure, il peut même ajouter des mots aux mots déjà écrits, donc attitude, disons, participative du spectateur. Donc ça, c'est le premier aspect de cette spatialisation de l'œuvre d'art dans les années, au début des années 60. Et de l'autre côté, quelque chose qui, au fond, n'est pas loin d'être l'inverse, c'est-à-dire plutôt une extension du domaine de l'œuvre, la sacralisation non plus d'un objet comme le voulait la pensée moderniste, du dernier modernisme américain notamment, mais d'un espace, comme l'indique d'ailleurs le sanctuaire qui termine significativement, me semble-t-il, le parcours de Apple Shrine. Vous le voyez donc, la spatialisation de l'œuvre d'art telle qu'elle s'opère à travers l'esthétique de Capro, mais il aurait été aussi possible de parler des environnements que réalisent au même moment Jim Dine ou Oldenburg. Cette spatialisation au début des années 60 est loin d'être un phénomène univoque. Certes, participation du spectateur, le spectateur entre dans l'espace de l'œuvre, mais d'un autre côté, l'œuvre demeure d'une certaine façon un sanctuaire, comme le dit cette pièce, et il y a simplement peut-être un phénomène d'extension spatiale de l'œuvre, mais l'œuvre en tant que espace oratique, objet oratique. On passe d'un objet oratique à un espace oratique, mais c'est le seul phénomène qui se produit. Alors l'autre grande modalité de la spatialisation de l'œuvre d'art à cette époque, quelques années mais à peine après ces grands environnements de Capro, nous la trouvons bien évidemment dans le minimalisme. Avec l'esthétique minimaliste, la sculpture, différemment de ce qui se passe avec les environnements de Capro, s'éprouve comme un objet placé dans une situation déterminée par un contexte architectural, des conditions d'éclairage, etc., etc., mais aussi et surtout par la présence d'un spectateur. Là, je vous montre une image d'une des premières expositions très importantes d'artistes minimalistes, celle que Robert Morris fait de décembre 64 à janvier 65 à la Green Gallery de New York, une série de sculptures qui entrent, vous le voyez même à travers cette image imparfaite, délibérément en relation avec l'espace d'exposition, notamment les pièces d'angle, qu'il s'agisse de la pièce d'angle que vous voyez à droite, la pièce d'angle, la poutre que vous voyez en haut à gauche, ou bien sûr le parallélépipède suspendu, qui avait d'ailleurs un sous-titre « Cloud ». Ce qui nous donne à penser, d'ailleurs, quand on parle de l'abstraction minimaliste, bon, il y aurait beaucoup de choses à en dire quand on voit qu'une pièce de Morris s'appelle « Cloud ». Alors, il ne s'agit donc pas du tout d'environnements tels ceux pratiqués à l'époque par Capro, mais plutôt d'œuvres en situation. L'œuvre ne devient pas un lieu, mais entre en relation avec le lieu de son exposition et à ce titre, bien sûr, avec les spectateurs qui s'y trouvent. L'acmé, d'ailleurs, de la relation qui s'installe de la sorte entre l'œuvre minimaliste et un spectateur dans un espace donné est sans doute atteint avec les plaques de Carandré que le visiteur peut fouler. Notez d'ailleurs que lorsque vous marchez sur ces plaques, rapidement, vous ne regardez plus les plaques, mais vous regardez l'espace qui vous entoure. Vous regardez le lieu d'exposition plus que les plaques. Hein. Les plaques deviennent d'une certaine façon un observatoire sur le lieu d'exposition, plus qu'une sculpture qu'on découvrirait en marchant sur elle. Grande différence donc avec ce qui se passait avec les environnements de Capro. Avec l'art minimal, la spatialisation de l'œuvre d'art n'implique pas son expansion spatiale, mais simplement la reconnaissance d'une relation avec l'espace non artistique qui l'environne. Et sous cet angle, le minimalisme est de toute évidence le point de départ d'un certain nombre de travaux qui, dans la décennie suivante, vont s'employer à désigner, voire à altérer le lieu d'exposition. Et je pense tout particulièrement, bien évidemment, aux travaux de Daniel Buren ou de Michael Asher. Quand Asher, à l'automne de 73, dans, je ne sais pas, je pense que c'est l'une des œuvres les plus importantes des années 70, a fait décaper les murs et le plafond de l'espace d'exposition de la galerie Toselli de Milan, il ne crée pas un environnement, bien sûr, hein, il ôte les couches successives de peinture blanche dont au fil des ans une galerie d'art recouvre ses murs pour garantir certaines neutralités visuelles aux objets qu'elle présente. Ce grand all-over soustractif donne ainsi à voir cela même qui est retiré. En effet, la peinture blanche qui recouvre les murs sur lesquels sont accrochés tableaux et autres objets d'art est devenue, par la force de l'usage, un élément en quelque mesure invisible. Son retrait seul fait prendre conscience de sa présence habituelle et permet de comprendre son rôle, interdire que la perception de l'objet d'art puisse être parasitée par celle de l'architecture du lieu qui met l'objet d'art en question, en montre, en exposition. C'est-à-dire, là encore, opération qui consiste en ôtant les couches de peinture du lieu. Asher souhaite dénoncer cet élément du péritexte de l'œuvre qui garantit l'illusion de son autonomie. Non seulement Asher n'a introduit dans la salle d'exposition aucun objet, mais il a donc dépouillé le lieu du revêtement qui facilite l'autonomisation visuelle des objets qui s'y trouvent d'ordinaire exposés. En d'autres termes, si le spectateur est amené, comme dans les environnements de Capro, à parcourir un espace, celui-ci n'est rien d'autre que l'espace d'exposition lui-même et non pas l'espace d'une œuvre, non pas un sanctuaire. Vous le voyez donc, quand le credo autonomiste du modernisme se voit remis en cause, hein, en cette période, sur la décennie qui va du début des années 60 au début des années 70, la spatialisation de l'œuvre d'art qui s'ensuit s'effectue selon deux grandes modalités. Celle que je vous propose d'appeler l'œuvre spacieuse, hein, l'œuvre est en tant que telle devenue un espace dans lequel le spectateur peut entrer. Alors dans la mesure où l'œuvre est ainsi pénétrable, elle remet assurément en cause le sacro-saint principe de la séparation, de la distance entre l'art et son public. Non, l'œuvre n'est plus séparée du spectateur, puisque celui-ci peut pénétrer en son sein. Mais dans la mesure où elle n'entre pas en relation significative avec le lieu où elle prend place, dans la mesure où elle est un lieu dans le lieu, et le premier faisant oublier totalement le second, l'œuvre spacieuse peut être considérée comme une simple extension spatiale de l'objet d'art traditionnel. C'est un peu comme si l'œuvre décidait de devenir elle-même son propre lieu. Le public peut certes pénétrer à l'intérieur de l'œuvre, mais c'est à l'intérieur d'un sanctuaire qu'il pénètre. Aussi, au total, l'œuvre spacieuse me paraît-elle non pas incarner un principe d'ouverture de l'œuvre sur le réel environnant, mais reconduire sous une forme nouvelle qui intègre le spectateur le modèle autonomisant de l'œuvre moderniste. L'autre modalité de la spatialisation de l'œuvre d'art est celle correspondant à ce que je vous propose d'appeler l'œuvre située. L'œuvre n'entretient plus l'illusion d'un hors-lieu, elle admet sa situation et entre en relation avec le lieu qui l'accueille. Dans certains cas, dont l'art de Michael Ascher aura livré sans doute les plus probants exemples, elle peut se consacrer uniquement à montrer ce lieu sous tel ou tel de ses aspects, voire à le transformer. L'œuvre située me paraît, elle, procéder d'un principe de décloisonnement de l'œuvre. Celle-ci s'ouvre sur ce qui n'est pas elle, le réel non artistique qui nécessairement entoure les manifestations de l'art. Alors, ces deux notions que j'avance, œuvre spacieuse, œuvre située, elles illustrent des tendances et non pas des essences. Il peut bien évidemment arriver que le départ entre les deux soit difficile. D'autre part, elles sont susceptibles de combinaison. Ainsi, les cabanes éclatées de Buren à la première date de 1975, et je tenais à en parler ici, puisque un certain nombre d'entre elles avaient été présentées en 2000 à l'IAC dans le cadre de l'exposition mise en demeure. Ces cabanes éclatées sont à la fois des œuvres spacieuses, l'on peut entrer dans ces constructions et y évoluer, mais aussi des œuvres situées. Elles entrent, du fait du principe de leur éclatement, en relation avec l'espace et l'architecture qui les entoure. Voilà, c'est fini avec la partie historique, on entre dans la partie contemporaine, rassurez-vous. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il était possible de reconduire aujourd'hui ce partage ? En parcourant les espaces de fabricateurs d'espaces, notamment le soir du vernissage, J'ai eu le sentiment comme ça qu'il y avait effectivement des œuvres qui relevaient plutôt de la catégorie des œuvres spacieuses et d'autres qui relevaient plutôt de la catégorie des œuvres situées. Avec la première que nous découvrons en arrivant sur les lieux, Démolireur Polka, hommage à Johann Strauss, hein, je crois, 2006-2008. Cette œuvre peut, sans trop de difficultés, être qualifiée d'œuvre située. La grande palissade de bois édifiée par Hans Schabus n'est pas l'enceinte d'une œuvre, mais une œuvre qui joue avec le lieu d'exposition, en l'occurrence pour le dissimuler au regard du passant. En revanche, les deux œuvres qui sont dans l'espace d'exposition le plus éloigné de la palissade de Schabus me semble, elle, livrer des versions de l'œuvre spacieuse contemporaine. Il s'agit de Schwarzes Loch de Björn Dahlem et peut-être encore davantage de AR07, la pièce de Vincent Lamouroux. Vous noterez que l'une et l'autre, d'ailleurs, mobilisent un jeu de référence qui, loin de nous ancrer dans l'ici du lieu d'exposition, dans la réalité du contexte, tend à nous déporter vers un ailleurs, le cosmos, pour Björn Dahlem. D'ailleurs, l'œuvre de Lamouroux est très bien située, parce qu'elle est au centre, l'endroit le plus bas de l'exposition, alors même que son... La référence qu'elle mobilise, c'est, je le dis d'ailleurs parce que l'artiste me l'a dit, le centre de la Terre, dans la mesure où la séquence dite la caverne de cristal du voyage au centre de la Terre, le film de 59 de Henry Levin a été en quelque sorte le modèle de ces white cubes dans le white cube. Si le troublant de l'amourou semble ainsi, par ses origines, nous entraîner fort loin du réel, du monde de la surface et des activités séculières, le trou noir de Dahlem, hein, Charles Lore, ça signifie trou noir, nous renseigne au fond sur le fort intérieur de l'œuvre spacieuse. Alors mes connaissances en astrophysique sont des plus limitées, mais il me semble savoir qu'un trou noir est une région de l'univers d'où rien ne peut échapper, ni rayonnement, ni matière. Le trou noir est doté d'un pouvoir d'absorption inimaginable, puisqu'un trou noir peut absorber une étoile. Il existe d'ailleurs plusieurs versions du trou noir de Dahlem, et il en est une qui rend peut-être encore plus sensible cette faculté d'absorption du trou noir. Hein. Vous le voyez sur cette version, les objets du réel, du quotidien, sont attirés par la sculpture qui les absorbe. L'œuvre spacieuse me paraît expliciter ainsi sa logique profonde, non pas s'ouvrir à l'ordre du dehors, du réel, mais absorber ce dehors, ce réel, pour les soumettre à son ordre. Alors, la relative permanence du clivage qui s'est instauré dans les modes de spatialisation de l'œuvre d'art au moment de l'effondrement du modernisme ne saurait bien sûr cacher les profonds changements enregistrés par la sensibilité contemporaine. Profonds changements que nous permet de mesurer, c'est l'une de ses vertus, j'ai envie de dire, employant un mot arien emphatique historique, une exposition comme fabricateur d'espace. Revenons un peu en arrière, non pas une dernière fois, mais une avant-dernière fois. Cette référence m'a sauté à l'esprit lorsque j'ai vu la pelle sable de Chabousse. J'ai pensé à ce qu'avait fait le même Hacher, pour ne pas multiplier les références, en 1976, lorsqu'il est invité dans un lieu alternatif qui s'appelle Clock Tower à New York, qui était situé sur 3 étages d'un building new-yorkais dans le bas de Manhattan. Et Hacher va réaliser là l'une de ses propositions les plus extrémistes. Il va ne rien faire d'autre que de retirer toutes les portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, de telle sorte que durant les 3 semaines de l'exposition, les bruits, les odeurs, les débris même de la ville apportés par le vent et la pluie elle-même d'ailleurs, investissent l'espace d'exposition. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après, Hans Chabousse érige une palissade devant le bâtiment de l'IAC pour soustraire le lieu d'exposition à la vue des passants. Le geste de Chabousse, alors même que l'artiste ignorait très probablement quelles seraient les autres œuvres figurant dans l'exposition, me paraît participer en profondeur de la même logique que celle manifestée diversement et par-delà la singularité des travaux par la plupart des autres œuvres ici assemblées par Nathalie. Alors quelle est cette logique? C'est une question, c'est un bon moment pour voir. Regardez surtout à gauche de l'image. Écran, une pièce d'Évariste Richer de 2008, devrait nous aider à répondre à cette question sur la logique d'ensemble que manifestent les œuvres rassemblées. Hein. Mobilisons une dernière fois Hacher pour nous rappeler son intervention décapante à la galerie Toselli en 73. Ce mur que l'artiste américain dépouillait des couches successives de peinture qu'il avait recouvert pour le mettre à nu, l'offrir au regard dans sa vérité architecturale, il est désormais pour Richer un écran. L'œuvre se présente comme une manière de de papier peint recouvrant tous les murs de la salle d'exposition. Les laits assemblés reproduisent la trame qui est celle de la toile de projection cinématographique sur laquelle sont pratiquées de petites perforations disposées en quinconce pour faciliter, pour faciliter la diffusion du son. Il faut, me semble-t-il, mettre écran en rapport avec une œuvre d'une autre artiste de l'exposition. En 1997, Rita McBride conçoit Arena, qui consiste en gradins circulaires, comme vous le voyez, entourant une arène, une scène vide. L'artiste réalisera diverses versions de cette pièce. Deux ans plus tard, en 1999, Arena Sitting, les gradins ne sont plus courbes mais rectilignes. Arena est à rapprocher d'une autre pièce exactement contemporaine de Gerwald Rockenschaub, qui, dans un centre d'art viennois en 1999, l'année d'Arena Sitting, propose aux spectateurs de prendre place pour observer à leur guise le lieu d'exposition qui exhibe sa vacance. Vous vous souvenez que Michael Fried, le grand adversaire du minimalisme, pressentait que la théâtralité serait la tendance lourde de l'après-modernisme, hein, le lieu d'exposition devenant une scène sur laquelle l'œuvre se met en représentation. Bien, les gradins de McBride ou ceux de Rockenschaub confirment le pressentiment. Ils attestent même que la scène sera d'autant mieux identifiée comme telle qu'elle restera vide de tout objet, comme l'écran de Richer reste vierge de toute projection. De tels hommes nous font comprendre que la conviction qui pouvait être celle d'un Hacher n'est plus de mise pour le zeitgeist de la présente séquence historique. Le détournement de l'attention artistique vers le lieu d'exposition, vers son architecture, vers son fonctionnement, n'est plus une alternative crédible à la spectacularisation. Hein. Les gradins, l'écran, il ne manquait plus que le rideau pour compléter le décor d'une salle de spectacle. Rassurez-vous, hein, il existe. En 91, au Kunstmuseum de Lucerne, le même Rockenschaub va suspendre un rideau de cellophane translucide le long d'une haute cloison de plus de 34 mètres de largeur. Ce rideau, imparfaitement transparent, drape le mur qu'il laisse visible tout en le dérobant à une vision directe. Le mur devient ainsi une espèce de réalité mystérieuse, proche et en même temps distante, comme nimbée de rats. Quelque chose comme une réalité qui se dévoilerait en se voilant. À la galerie Giustini de Rome l'an passé, le même artiste montrait un rideau pourpre pendu le long d'un mur peint en gris qu'il dévoilait en partie. Quand en 1974 Hacher avait été sollicité pour intervenir au Nova Scotia College of Art and Design à Halifax, il avait proposé de ne rien changer à l'espace de la galerie d'exposition, pas même de repeindre les murs. Hein. S'il s'agissait pour lui d'échapper à la réification qu'induit l'objet d'art, en appelant le spectateur à s'intéresser au lieu où cette réification tend à s'opérer presque fatalement, c'est que l'artiste était là convaincu que le lieu était au fond l'antithèse de l'objet. Cette assurance, l'antithèse du spectacle aussi, cette assurance, Rockenschaub, McBride, où Évariste Richer à travers son écran paraissent ne plus la partager. À l'instar du ready-made qu'évoquait tout à l'heure Arnaud Pierre, désormais tenu pour une sculpture comme une autre, hein, l'espace d'exposition est finalement devenu, sinon un objet d'art en bonne et due forme, du moins un objet d'attention esthétique sur lequel le regard du spectateur a pris l'habitude de se porter comme sur les œuvres qui généralement s'y trouvent. C'est ce destin que sanctionnent les gradins de McBride, les rideaux de Rockenschaub ou l'écran d'Évariste Richer. Le lieu se donne en spectacle. Entendez que le lieu d'exposition devient visible non pour déjouer, comme dans les années 70, la spectacularisation de l'œuvre d'art, mais pour se donner à voir comme l'objet de spectacle qu'il est devenu. Le lieu d'exposition que met dorénavant en scène l'œuvre située n'est donc plus l'antithèse du spectacle. Alors si le théâtre et le cinéma sont les modalités du spectacle, il en est une autre que suggérait d'ailleurs Arnaud tout à l'heure dans son introduction, c'est la fun house de l'amusement park. Et n'est-ce pas à elle que fait songer irrésistiblement la magnifique pièce de Jeppeheim intitulée Change in Space. Le lieu d'exposition était pour Asher ou Buren cet élément du réel ambiant auquel l'artiste devait se confronter dans un souci anti-illusionniste de prise de conscience du contexte muséal. Il est devenu chez Hein un instrument de spectacle. Donc l'artiste a réalisé toute une série depuis 1999 de pièces dans lesquelles un ou plusieurs murs bougent très lentement et font subrepticement changer la dimension et la configuration d'un espace. Ça, c'est la première. Je vais défiler quelques images. Jusqu'à donc Changing Space, la pièce de 2003 qui est montrée ici dans l'exposition. Alors, si le mur bouge ailleurs, il peut finir par se fissurer, tomber en morceaux, comme avec cette pièce qui s'appelle Self-Destructing Wall, qui est aussi de 2003. Un timer règle un mécanisme placé à l'intérieur d'un mur de l'espace d'exposition qui, en un temps prédéterminé, va réduire la longueur d'un mur et l'amener de 5 mètres au début de l'exposition jusqu'à 50 cm à la fin de l'exposition, au prix des dégâts que vous pouvez imaginer. La désignation et la déconstruction du contexte d'exposition de l'œuvre deviennent de la sorte une attraction, hein, au sens de l'attraction d'une fun house. Fun house, ce lieu où la tête vous tourne, hein, comme l'indique l'œil du perroquet d'Évariste Richer, hein, cet appareil qui indique la ligne d'horizon sur le tableau de bord de l'aviateur et que l'artiste fait ici tourner sans interruption. Pour le visiteur qui arpente les sols construits à partir de 2002 par Vincent Lamouroux, le gyroscope s'affolerait également tant le sol est accidenté. Alors je parlais de Fun House. Sachez que, c'est drôle, je relisais certains des comptes rendus de l'historique exposition Spaces au MoMA, exposition dont je vous le rappelle qui entérina la spatialisation qui donna la bénédiction muséale, disons, à la spatialisation de l'œuvre, à travers la présentation de travaux que nous jugeons maintenant rien moins que sérieux, hein, Asher, Bell, Flavin, Maurice, eh bien, les comptes rendus de l'exposition à l'époque parlèrent, qualifièrent de fun house, c'est drôle, l'espace muséal ainsi investi, comme si la mise en situation de l'œuvre, en fermant la parenthèse moderniste, celle d'un art en quelque sorte habité par le seul souci de son essence, ne pouvait que renouer avec un passé où le musée et la salle de spectacle se distinguaient mal l'un de l'autre, ne pouvait que repactiser sans complexe avec les techniques de la scène et de l'entertainment. Avec les quelques œuvres situées que nous venons d'envisager, hein, l'espace d'exposition, tout en gardant son statut d'espace d'exposition et en ne prenant pas celui d'œuvre en quelque sorte, ne se tient toutefois plus à l'écart du spectacle. On l'observe depuis des gradins, un rideau de théâtre dévoile ses murs, ce qui est du reste très logique, puisque les murs en question sont devenus des écrans, quand ils ne se mettent pas tout bonnement à piéger le spectateur en bougeant imperceptiblement. Mais si de telles œuvres semblent nous dire que le lieu ne saurait plus se penser comme un au-delà du spectacle, ce qu'il était dans les années 70, c'est peut-être aussi parce qu'un au-delà des murs du lieu d'exposition s'est manifesté. Plusieurs artistes appartenant à une génération intermédiaire au regard de celle, disons, de Buren et Asher, et de celle majoritairement représentée ici, ont en effet, dans la logique même de leurs aînés, voulu démasquer le lieu d'exposition et plus généralement l'espace architectural en ne s'arrêtant pas à la surface des murs. Asher chez Toselli a débarrassé la salle d'exposition des multiples couches de peinture, hein, qui l'avaient recouverte, mais pour ramener les murs du bâtiment à leur réalité première. Un Matthew McCaslin, qui est née en 57, donc de la génération de Rita McBride, qui elle est née en 60, dès le début des années 90, ne va plus vouloir s'arrêter au mur. Il va vouloir révéler ce que ces murs dissimulent. Les parois intérieures ne sont en effet plus la vérité dernière d'une construction. Derrière elle, un lacis de câbles électriques innerve le bâtiment. Tous les câbles et autres boîtiers de raccordement qui envahissent les murs et jonchent le sol des expositions de McCaslin sont métaphoriquement ceux que les architectures où nous vivons s'efforcent de dissimuler. Non seulement d'ailleurs par souci de sécurité et d'esthétique, mais très certainement aussi pour nous éviter l'angoissante angoisse d'habiter un réseau de flux.